À l'Outaouais maintenant, voici le grain de sel à Michel.
Wow, attends un peu là, comment tu dis ça là?
C'est pas de longueur, mais ça...
Non, là j'accumule, mais watch out, mais que ça sort, on va pas être boire.
OK, il est là en studio et il me semble de bonne humeur. Ça doit être parce qu'il veut nous parler de baseball. Comment ça va, Michel?
Ben ça va bien, mon LP. Puis tu sais, hein, mon amour pour le baseball, parce que tu m'as vu grandir. Et tu sais que j'ai joué au baseball quand j'étais plus jeune.
Je t'ai pas juste vu grandir, mon Michel.
Ah, tu m'as vu grossir aussi.
Je t'ai vu élargir un peu, oui.
Bon, alors, pour les gens qui m'ont vu un peu moins large et un peu moins gros...
Les gens le savent pas, là, mais... Écoute, quand t'avais, mettons, je sais pas, moi, 25 ans, Michel, ou 20 ans,
ouais.
Est-ce que tu pesais 140 livres mouillés?
Oui, mouillé.
Mouillé, bien mouillé, là.
Le mot,
genre, non, une douche.
140 puis... livres était mon poids.
OK.
Aujourd'hui, on dira pas mon poids,
pas besoin d'en parler. Allez voir les photos sur le site Internet ou sur la page Facebook du 147.
Merci, mon LP, un chum comme toi, ça s'achète pas.
C'est ça.
Bon, je te parlais donc de baseball, parce que ça a été pour moi, quand j'étais plus jeune, puis il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai joué au baseball dans l'Outaouais, c'était comme une drogue, le baseball. J'aimais vraiment ça. Je vous dirais presque autant, sinon plus, que le hockey par moment, parce que le rôle que je jouais, moi, dans une partie de baseball, c'est le rôle de lanceur. Le rôle du lanceur, t'as toujours la balle en main, c'est comme celui qui contrôle le jeu. Fait que c'est le fun d'être le centre d'intérêt pendant un match de baseball, quand t'es le lanceur. C'est toi qui dirige la balle au marbre, c'est toi qui dirige le jeu. Puis, j'étais pas un mauvais frappeur, j'étais pas le meilleur frappeur, mais j'étais pas un mauvais frappeur non plus. Fait que ce sport-là me convenait beaucoup.
Oui, les gens ne savent pas, mais t'étais un lanceur étoile.
Un bon lanceur.
T'étais même perçu comme un gars qui aurait pu aller plus loin dans le baseball un peu.
Certainement plus loin. D'ailleurs, j'étais une patte gauche, ça aidait. Et les gens qui m'ont vu lancer, je lançais de la scrap. Tu sais, là, de la curve, de la drop, de la balle courbe, de la balle tombante, tout ça. Et j'avais même développé, LP, une genre de balle papillon que j'avais vu à la télé. Phil Niekro montrait ça, tirer la balle avec ses jointures presque sur la balle du revers. Tu lançais ça du revers.
Je ne suis pas un connaisseur en baseball. Moi, mon sport d'été, c'était le soccer. Mais est-ce que c'était pas la grande force d'un Pedro Martinez, ça, ce lancer-là?
Non. La knuckle ball, qu'on appelle, là... La balle papillon, il n'y a pas de rotation dans la balle. Quand tu la tires, là, quand tu la lances,
balle meurt.
La balle, là, elle ne roule pas. Elle est statique. Et là, tu as l'illusion d'optique. Je ne sais pas si c'est physique ou quoi, mais elle bouge de n'importe quelle manière. Puis c'est très trompant et pour le receveur et pour le frappeur. Fait que pour les gens qui ont eu la chance de jouer un peu, vous savez de quoi je parle. Tout ça pour vous dire que quand moi, j'étais petit gars, quand j'allais au bâton LP, c'est comme un tir frappé dans le top du net au hockey. Quand tu te présentes au bâton, tu vises la clôture. Puis moi, mes entraîneurs disaient toujours, « Fais juste la mettre en jeu, mon Michel. Mets ton œil sur la balle. Fais juste un contact. » Puis on entend tellement les entraîneurs dire ça aux joueurs, « Juste un contact. T'sais, vise pas la clôture. » Et on visait pas toujours la clôture. Ça arrivait qu'on faisait des coups de circuit, mais rarement, pas tout le monde qui le faisait. Quand j'étais jeune, c'était la marque des entraîneurs de nous dire, « Pas de clôture. Vise pas la clôture. Fais contact. Ça va y aller tout seul. » Aujourd'hui, j'apprenais ce matin que dans le baseball majeur cette année, on vient d'éclipser une vieille marque. Je n'ai pas les chiffres devant moi, là. Je pense que c'est 6106, mais c'est peut-être erroné comme information.
Il n'y a jamais eu autant de circuits dans le baseball majeur.
Voilà. Et pourquoi c'est comme ça? Fait que là, tout le monde parle des balles qui ont changé. Tout le monde cherche à prouver que les balles d'aujourd'hui voyagent plus que les balles d'il y a 5 ans, les balles d'il y a 10 ans. Ce n'est pas encore prouvé physiquement.
Ce serait pas le bâton, comme au hockey.
Les bâtons n'ont pas changé, la densité des bâtons, les matériaux qu'on utilise. Les joueurs sont plus forts, c'est sûr. Mais surtout, LP, c'est les statistiques qui ont changé le baseball. C'est un sport de stats, le baseball. On l'a déjà vu, les Ace d'Oakland ont déjà presque gagné un championnat en raison des statistiques avancées d'un gérant qui voyait juste ça. Et les statistiques démontrent qu'aujourd'hui, plus tu essayes la clôture, plus tu vas gagner de matchs. Contrairement à quand moi j'étais petit gars, quand on nous disait vise pas la clôture, fais juste la mettre en jeu. Aujourd'hui, les jeunes vont pas au bâton pour avoir une moyenne de 450-500. Certains d'entre eux, oui. Mais plusieurs autres, non. on essaye la longue balle.
Donc, c'est le plan de match qui a changé.
Et comme au basketball, on a vécu, au printemps dernier, ensemble, on a vécu la finale des Raptors dans un chalet de pêche avec nos blondes. Hein, tu te souviens?
Puis le petit maudit, l'autre bord, Stephen Curry, je ne me trompe pas. Lui, c'est le champion des trois points.
Spécialiste des trois points.
Tout le monde le voudrait dans son club à cause de ça.
On a compris au cours des dernières années, les statistiques avancées le prouvent. Plus que tu essayes de tirer de trois points au basket, plus tu vas gagner de parties. Plus tu tires du centre de la patinoire, du centre de la glace au hockey, plus tu vas marquer de buts. C'est répertorié des statistiques qui le démontrent. Tu tires pas des cercles de mise en jeu du bord de la bande, ça va pas dans un grand pourcentage fonctionner.
Et encore là, même au hockey, avant, on disait tirer de partout, ça va finir par rentrer. On s'est ajusté au fil du temps.
C'est plus ça aujourd'hui. Ouais. Alors aujourd'hui, quand tu vas au bâton, essaye là la clôture. Quand la balle est là, donne tout ce que tu as dans la balle. Et le résultat, c'est que ou bien tu passes dans le mythe, parce qu'il y a une bonne patte gauche qui vient de te retirer, ou bien tu fais un coup de circuit. Tu sais, je te dis qu'il y a, les deux.
Donc, il y a plus de circuits que jamais et plus de retraits sur trois prises que jamais, probablement.
Fait que cherchez pas d'un balle, cherchez pas d'un bâton, cherchez pas d'un stéroïde. Cherchez dans l'attitude des joueurs. Comment on les prépare à monter dans les majeurs. Cherchez statistiques, c'est vendeur, parce que tu vas avoir un cogneur. C'est aussi clair que tu gagnes plus de matchs si tu essaies, si tu frappes plus de coups de circuit. C'est ça la loi du baseball maintenant.
Oui, c'est vendeur, mais en même temps, les codes d'écoute sont en baisse, les matchs sont trop longs.
C'est ça le problème.
Le baseball est un peu plus plate qu'il l'était avant.
Oui, parce que t'as moins de jeux sur les buts, t'as des longues balles.
Écoute, rappelle-toi Tim Raines, cette époque-là, les voleurs de buts, ça, c'est spectaculaire. Un amorti, c'est spectaculaire, parce que là, t'as un jeu serré au premier coussin.
Et alors... de moins en moins de vols de buts. Pourquoi? Parce que les statistiques avancées disent que si tu te fais prendre ces buts, tu perds un avantage que t'avais au premier but. Mm. C'est carrément ça. Fait que je trouve ça intéressant, l'aspect statistique. C'est pour ça que je suis content de parler de baseball aujourd'hui.
OK, on va tirer à voir nos expos. C'est ça qu'on veut savoir.
Oui, on va les avoir.
Ah, j'ai hâte.
C'est sûr qu'on va les avoir, LP.
Et que j'ai hâte.
Puis c'est sûr que je vais aller faire un tour au stade.
OK, on va s'en reparler. Ton édito aujourd'hui, ça concerne un de tes invités ce matin.
Oui, le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, surtout le point de vue des ponts. Moi, je pense que ça prend un sixième pont, puis ça presse. Puis pas après les études, là. N'importe où, s'il vous plaît, faites-le, parce que le monde s'en prie. Le train, je suis plus ou moins d'accord avec le train. Je comprends que c'est une vision d'avenir, mais je me demande si... le secteur ouest, qui est très peu populeux, mérite d'avoir ou on a besoin d'un train à si haut prix pour si peu de monde. Je me pose la question. On verra bien ce que les gens vont décider, puis on verra bien si ça va finir par être financé au complet, cette histoire-là.
Mais lui, il est convaincu.
Mais lui,
si
est
on
convaincu,
peut pas y enlever
mais
ça.
S'il l'a gratuit, on est tous d'accord. Si c'est le fédéral qui paye la balance de la facture promise par... il n'y a pas de trouble, on est tout le monde d'accord avec ça. Fait qu'on ne peut pas être contre la vertu. Maintenant, lui, il dit, pourquoi un sixième pont? Pourquoi mettre un pont entre une autoroute bloquée d'un bord et une autoroute bloquée de l'autre bord? Ça va faire quoi?
Oui, mais si tu le mets à bonne place...
c'est ça, l'affaire.
L'autoroute va être moins bloquée.
Tout est là. Alors, moi, j'ai trouvé ce matin que Maxime Pedneau-Jobin, dans ses explications, parce que je lui posais la question, là, Norman McMillan va venir frapper à sa porte lundi. Lui est maintenant lobbyiste pour le groupe Bourbonnais. Eux autres, ils veulent un pont à péage. Alors, s'il n'a pas changé sa position, M. Pedneau-Jobin, à quoi bon rencontrer M. McMillan? Tu sais, ça va donner quoi? Si lui, il pense que ça prend pas un sixième pont.
Bien, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Parce que peut-être que son raisonnement est, si c'est le privé qui paye pour un pont à péage, ça me garde mon argent à moi, maire de Gatineau, pour mon projet de train léger venant du fédéral. Mm. Parce qu'on sait tous que le fédéral pourra pas financer les deux projets en même temps.
Ils pourront pas financer deux projets côte à côte comme celui-là. Fait qu'il va les rencontrer, on verra bien. Il a quand même confirmé, il va en avoir un sixième lien dans la région de l'Outaouais. Il l'a dit ce matin.
Oui, à un moment donné. Mais on va être encore vivant, Michel.
Mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas quel type de pont ça va être non plus. Mais lui, ce que j'aime, il a une philosophie, il a une vision pour le futur, puis il ne déroge pas.
Malgré les sondages, contre son opinion.
Absolument. Puis ça, LP, là... Dans la vie politique, il y en a trop des gens qui changent d'opinion.
Les girouettes.
Exact.
Ça, faut lui donner ça.
Alors lui, il s'entête, c'est ça son plan. Et puis j'ai l'impression qu'aux prochaines élections, ça va se jouer là-dessus, j'arrête pas de le répéter. Alors j'ai hâte de voir comment ça va se dessiner tout ça avec la campagne électorale, comment ça va finir le financement du train, puis surtout la location du sixième lien qu'on parle tant dans la région de l'Outaouais.
Oui, faut lui donner ça. Là où j'étais pas du tout d'accord avec, je pense qu'il coupe un bout de l'histoire, c'est quand tu dis on peut pas faire la même chose qu'on a toujours faite et penser que ça va fonctionner en parlant d'un autre pont. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu un autre pont dans la région.
Non, mais lui,
c'est pas comme si on avait eu un nouveau pont il y a 10 ans ou il y a 5 ans.
Il évoquait les études qui ont été faites. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les études qui ont été faites sont désuètes parce qu'ils ne tiennent pas compte du contexte futur de Gatineau puis des projets futurs qu'on a. Alors, il dit c'est inutile de refaire ce qu'on a fait parce que c'est plus à jour aujourd'hui.
Oui, mais je pense aussi qu'il disait ça dans le sens que lui, il pense pas qu'un nouveau pont, c'est une bonne idée. Mais puis l'autre chose que je trouve qui fait abstraction, c'est que sur le nouveau pont, le transport en commun serait
c'est
une
nécessaire.
Option aussi.
C'est nécessaire.
On ne peut plus négliger en 2019 le transport en commun.
Écoute,
si on ouvre un nouveau pont, il y aura de la place pour des autobus, puis peut-être même éventuellement pour un train léger.
Tellement qu'en fin de semaine, on va ouvrir le train léger. Là, on va l'ouvrir au public, aux médias d'abord, puis après ça au grand public. Puis ça va être en fonction là, dans les prochains jours. Et je pense que quand on va... On est en 2019. Quand on va établir quel type de pont on va faire, mais en même temps, il va falloir considérer l'avenir. Puis l'avenir passe par le transport en commun. Qu'on le veuille ou non, on est tous d'accord là-dessus. Mais si tu veux parler de transport en commun, j'ai pas de trouble. Mais assure-toi que tu offres un service de qualité aux gens. Je veux bien que les gens prennent l'autobus. Va te stationner dans un stationnement incitatif, là. Trouve-toi un stationnement, prends une marche à tous les matins, prends l'autobus, attends dans l'autobus pendant une heure et quart pour traverser Ottawa. Dis-moi si c'est plaisant de prendre l'autobus ces jours-ci.
Parlant d'autobus, tu as un ancien chauffeur, un chauffeur démissionnaire en entrevue demain matin, confirmé?
Oui, confirmé demain matin, 7h25. Manquez pas cet entretien-là, LP, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Raconter sur comment ça se passe à la STO. Lui, il va nous parler de son cas, mais il va surtout nous dresser un portrait. Puis je vous le dis, là, il y a une constante qui revient dans la problématique des chauffeurs d'autobus à la STO. Ça va sortir demain matin sur nos ondes.
On écoute ça sans faute. On est là à compter de 5h30. Merci, Michel.
Salut, LP.